que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa.
Beaucoup de Congolais, pour diverses raisons, hésitent à se constituer donneurs bénévoles de sang. Selon le Programme national des transfusions sanguines, pour l'année 2011, seulement 33% des dons de sang sont provenus des donneurs bénévoles. Et pourtant, en cette matière, les normes recommandent que toute transfusion réalisée puisse provenir des dons bénévoles qui sont en fait des dons anonymes. Alors, quelle est donc l'importance du don de sang? Pourquoi est-il important de faire un don de sang? Monsieur David Ndakel, encore une fois, bonjour.
Bonjour, Monsieur Kachama.
Vous êtes le directeur général adjoint du Centre national des transfusions. D'abord, dites-nous, c'est quoi un don de sang?
Un don de sang, c'est un acte tout à fait bénévole de quelqu'un qui est en bonne santé et qui donne sans savoir qui va recevoir le don qu'il va donner. C'est-à-dire qu'on procède à un prélèvement d'une quantité de sang qui est normée et qu'on disponibilise, qu'on mette, n'est-ce pas, dans une banque de sang, dans une structure hospitalière ou extra-hospitalière. Et une personne qui en a besoin, cela veut dire un receveur, pourra venir et il pourra trouver donc ce don qui est donc placé dans une poche.
Donc on peut dire que
qu'il viendra prendre quand il en a besoin. Oui.
Donc on peut dire que ce don est très important parce que ça va aider une autre personne.
Absolument, c'est d'une importance. Le don a une importance capitale. Parce qu'un don, nous pouvons le prendre, dans les concepts même, de deux manières. D'abord, quand on dit un don, c'est qu'on voudrait donner à quelqu'un qui en manque. Or, le manque de produits sanguins, il est évident. C'est pratiquement un problème de santé publique. Et dans notre pays, nous sommes dans un pays à endémicité de paludes. Il y a des accidents, il y a aussi des complications liées aux accouchements. Si bien que le besoin, la pénurie en sang, c'est un problème de santé publique. Il faut, à tout moment, satisfaire ce besoin-là. Ça, c'est un. De deux, on ne fabrique pas le sang dans une industrie quelconque. On le prend, on le prélève chez des humains. Or, les humains, ils ont leur caprice, il y a toute une panoplie, n'est-ce pas, de choses qui se trouvent derrière cet acte de don. Et donc, étant donné que cette pénurie de sang, nous devons absolument arriver à le satisfaire, il est capital que nous puissions procéder à des dons. Voilà un peu ce que je peux dire jusqu'à ce moment.
Alors, quand je vois les statistiques, par exemple, pour l'année 2011, seulement 33% des dons sont provenus des donneurs bénévoles. Et c'est quand même un problème.
Tout à fait. Quand nous disons des dons bénévoles, cela veut dire que c'est ceux-là qui viennent d'eux-mêmes, d'une manière altruiste pour donner. Mais cela ne dit pas que nous ne satisfaisons pas le besoin. Le besoin est satisfait par les dons familiaux. Cela veut dire que quelqu'un, un membre de la famille, qui voit son enfant ou bien
malade.
Comme un malade et tout ça, et qui n'a pas de sang, il se constitue en donneur.
En donneur, bien
et
sûr.
Celui-là, il vient. Mais d'après les normes, ces donneurs familiaux, n'est-ce pas, ils viennent pour des motivations tout juste de sauver cette personne et ce sont des dons que, d'après l'OMS, ils ne sont pas vraiment encouragés et les études ont montré qu'auprès des donneurs familiaux, n'est-ce pas, les marqueurs infectieux sont assez élevés. Mais tandis que le don bénévole, lui, c'est un don qui est fait par quelqu'un qui vient d'une manière altruiste, comme nous l'avons dit.
Alors si je comprends bien, il y a deux formes de dons. Il y a les dons familiaux, comme vous l'avez dit, et les dons altruistes, faits par une personne qui vient volontairement.
Oui, déjà, le don bénévole, il est altruiste. Mais le don familial, c'est un don de compensation. Cela veut dire, étant donné que nous n'avons pas suffisamment de bénévoles qui viennent d'eux-mêmes, maintenant la famille vient il vient donner son sang à la place de personnes qui seraient venues et qui auraient donné leur sang bénévolement. Et donc, ces dons de compensation couvrent pratiquement, 60% des dons pour combler le besoin que nous avons pour qu'on atteigne les 100%. Mais il y a même une autre catégorie aussi. Parce que même les donneurs qui se disent familiaux, souvent on n'en trouve pas. On peut dire qu'il y a beaucoup d'obstacles qu'il y a là-bas. Il y a d'autres qui se constituent, même en donneurs payants, qui sont toujours aux environs, n'est-ce pas, des hôpitaux, et qui viennent, on peut le prendre pour qu'ils puissent venir.
Ils sont toujours
autour des hôpitaux pour qu'ils puissent dire qu'ils sont en fait des donneurs familiaux.
Et dès qu'il y a un problème de sang, on vient les chercher.
Voilà, tout cela, nous faisons le programme à faire en sorte qu'on puisse les diminuer parce que c'est quelque chose qui n'est pas accepté du tout, ni par l'OMS, ni par notre politique nationale. Et donc, la proportion des donneurs payants, de ceux-là qu'on prend, a été vraiment réduit au minimum. Nous sommes, je crois, dans les 2 ou 3 % de ceux-là, tandis que les familiaux sont toujours là, mais les donneurs bénévoles, comme vous l'avez vu dans ces statistiques, ils sont à 33 %. Alors, ça, c'est les rapports de l'année dernière.
Alors, Monsieur David, quelles sont les raisons qui font qu'il n'y a pas assez de donneurs bénévoles de sang?
Ça, c'est une très, très bonne question. Vous savez que le don bénévole touche l'homme. Et l'homme a, des raisons. D'abord, les deux grandes réunions, il y a des études qui ont été faites. Les gens disent que, bon, écoutez, moi, je ne suis pas en bonne santé. Ça, c'est ce qu'ils disent. Et d'autre part aussi, je n'ai pas assez de sang. Vous voyez, ils prétextent cela. Déjà, ça, c'est l'ignorance lui-même. Mais il y a aussi d'autres raisons, d'autres facteurs. Ils disent, mais écoute, je vais donner mon sang. Et est-ce qu'on ne va pas... Il n'y a pas la sorcellerie qui va jouer. Donc, il y a tous ces tabous-là qui jouent. Et maintenant, pour que nous puissions...
Les tabous, les croyances.
Les croyances, exactement, ouais. Comme je voulais le dire. Quelqu'un qui donne, c'est comme c'est une partie de sa vie. En fait, c'est ça la réalité. Mmh. Il donne une partie de sa vie à une personne qu'il ne connaît pas. Qu'est-ce qui va advenir? Et qu'est-ce que l'autre personne-là qui reçoit son sang, comment ça va se passer? Bref, il y a tous ces tabous, comme ces croyances qui font des obstacles. Oui. Donc, il y a l'ignorance, comme je vous ai dit, qui joue aussi. Mais entre autres, il y a tout un problème organisationnel. Parce que nous, en tant que programme, nous connaissons ce que nous pouvons faire. Le travail de sensibilisation pour rendre les gens sensibles à ce manque, à ce problème, il faut beaucoup de moyens. Il faut qu'on utilise tous les canaux, n'est-ce pas, de médiatisation pour que nous puissions arriver à rendre les gens sensibles et pour qu'ils puissent donner. Or, ça touche l'homme, donc c'est un changement de comportement. Le changement de comportement, c'est un processus. On ne le fait pas qu'une personne va changer d'un clin d'œil d'un donneur qui était là familial ou bien d'un donneur qui ne voulait pas du tout donner, qu'il puisse brusquement commencer à donner. Il faut qu'il comprenne pourquoi il donne. Il faut qu'on puisse le sensibiliser. Et la sensibilisation, en tout cas, ça a un coût. Donc bref, tous ces différents facteurs font que ça peut influer sur le nombre de donneurs bénévoles. Donc il y a ce problème, comme je vous ai dit, oui. D'ignorance, de croyance, mais aussi un problème de moyens pour que nous puissions arriver à avoir toutes les techniques et les moyens pour sensibiliser les gens.
Oui. Quelle est l'importance du don bénévole de sang? Au Capi Service reçoit aujourd'hui M. David Ndakala. Il est le directeur général adjoint du Centre national de transfusion sanguine. Vous voulez participer? Composez les 081 890 63 94.
Okapi danse, du rythme et de la chaleur, des heures de musique, les tubes du moment et les meilleures nouveautés. R&B, hip-hop, rumba électrique, pop, rap, d'Afrique ou d'ailleurs. Tous les tempos mixés par DJ Daddy. Okapi danse, les mercredis jeudi de 21h à minuit, le samedi, Megamix de 19h à minuit.
Bien, quelle est l'importance du don bénévole de sang? Gabriel Betou nous appelle de Kalima, dans la province du Maniema. Nous avons également en ligne Raphaël Touminga de Lubumbashi. Gabriel, bonjour.
Bonjour, monsieur Jésus Daniel Kachamay. Bonjour aussi à notre invité. Bonjour à tous les auditeurs qui ont l'habitude de me suivre à Kalima. Et je dis aussi un petit pourquoi à tous les auditeurs de radio, nous avons celui qui nous fait passer l'envoi. Merci. Une question seulement à poser à notre invité.
Oui.
Moi, j'ai déjà vu ici à Kalima, ici chez nous à Kalima, à l'hôpital général. On a mis un lot du sang déjà testé au niveau du congélateur. Quand les malades arrivent, on passe seulement un sang qui est congelé, on les met. Maintenant, un papa a refusé de mettre son fils ce sang-là. Il n'a pas confiance aux infirmiers. Il a dit que non, peut-être que ce n'est pas bien testé. Il faut qu'on me prélève moi-même le sang pour mettre à mon fils. Maintenant, je demande à l'invité, le papa-là a eu raison de refuser ou pas?
Merci Gabriel. Raphaël Touminga, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Oui, bonjour, c'est Raphaël Touminga.
On vous écoute.
Oui, je voulais vous parler un peu à ce qui nous décourage dans ces deux journaux, les donneurs du sang. Et lorsque j'étais à Lodja, on nous avait dit, j'avais répondu à des rendez-vous, parce que j'ai donné déjà le sang deux fois, et on nous avait donné une carte de membre. Et on nous avait dit que lorsque vous tomberez malade, vous allez vous diriger dans un hôpital le plus proche de vous et vous aurez droit à payer les médicaments et non les traitements. Mais je suis arrivé ici à Lubumbashi, j'étais malade, je suis arrivé à l'hôpital, mais on me demande aussi de payer aussi les frais de traitement. Je vois que c'est une aventure.
Voilà, donc vous dites que vous êtes allé donner, faire un don de sang, c'est ça?
Oui, j'ai déjà donné deux fois.
Oui. Et on vous a dit que vous aurez un traitement gratuit, mais ce n'était pas le cas.
Oui, on vous a dit que vous aurez un traitement gratuit, vous allez payer que les médicaments. Mais je suis arrivé à l'hôpital général, mais c'est le contraire.
Bien, merci. Monsieur David.
Merci. Je voulais surtout d'abord commencer par notre ami de Kalima. Et je n'ai pas bien saisi sa question.
Il dit ceci, un enfant était malade, son père l'a accompagné à l'hôpital et il y avait le sang congelé et le papa a refusé qu'on puisse transfuser ce sang, donner ce sang à son enfant. Il a préféré qu'il prenne son propre sang pour donner à son enfant. Avait-il bien agi ou pas?
C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ça c'était un don familial. Donc le papa n'a pas confiance au sang. Enfin, on ne le congèle pas, mais qui est gardé au frigo et qui est testé. Et normalement, le papa n'a pas raison de faire de cette manière-là. Parce que pour que le papa puisse se constituer en donneur, il faut qu'on puisse avoir tout un questionnement par rapport à son mode de vie et tout ceci. On ne prélève pas de sang comme ça et qu'on arrive, qu'on le voit. Même si c'est un donneur familial, il doit passer par toute la sélection nécessaire. Tandis que le sang qu'il a trouvé déjà sur place et qui est conservé dans de bonnes conditions. Ce sang-là, il a déjà été, traité. Cela veut dire qu'il a subi toute la qualification biologique nécessaire. Et en cas d'urgence, c'est ce sang-là qu'on trouve sur place, qui se trouve dans la banque de sang, qu'on peut utiliser. Et donc, le papa, sa résistance, c'est encore une fois dû à tout ce que nous avions dit. C'est de l'ignorance ou des choses comme ça. Il n'a pas confiance, n'est-ce pas, aux structures qui sont mises en place, qui sont pourtant normées, qui remplissent les conditions, n'est-ce pas, des dons bénévoles tels que donnés par l'OMS et internationalement reconnus. Donc, le papa n'a pas à agir de cette manière. Tandis que notre ami de Raphaël
qui est donneur bénévole de sang,
qui a déjà donné deux fois. Qui a quitté Lodja pour aller à Lubumbashi, on lui a promis
qu'il pouvait
prendre ça,
peut bénéficier des soins gratuitement.
Exactement, les soins gratuitement c'est autre chose. Nous ne traitons pas, mais nous stockons des unités de sang pour un donneur qui est fidélisé. Cela veut dire qu'il a déjà fait deux fois, et même lui qui avait déjà au moins fait deux fois, il arrivait au niveau du centre provincial de transfusion sanguine, il montre sa carte, s'il est régulier, il a droit à avoir une unité de sang. Mais nous commençons à partir de, n'est-ce pas, de trois dons. À ce moment-là, nous appelons un donneur bénévole qui est fidélisé. Mais quelqu'un qui va, il a fait très longtemps, je ne sais pas combien l'espace de temps qu'il a fait entre le don à Lodja et jusqu'à Lubumbashi. À ce moment-là, bien sûr, il peut avoir fait deux fois, mais c'est un donneur irrégulier. Mais néanmoins, quand il présente sa carte, on a le droit de examiner sa carte et lui accorder une unité de sang, parce que quand il a donné à Lodja, partout au Congo, nous avons un même service. C'est comme si c'était son sang qui était mis en stock et quand il en a besoin, on pourra lui donner. Voilà ce que je peux dire à ce
moment-là. Un auditeur nous révèle que parfois, lorsqu'un enfant est malade et qu'on se rend dans vos services, c'est très compliqué. On n'a pas les sangs facilement. C'est pour cela que certaines personnes s'improvisent donneur directement, donner à mon enfant ou à mon frère le sang.
Ça dépend de quand il dit non service. La structure de centre national, du programme national de transfusion sanguine, est faite de manière que nous avons des structures extra-hospitalières, comme ici au CNTS, et comme le centre provincial de transfusion sanguine, donc au chef-lieu de la province. Mais dans chaque hôpital général de référence, nous avons ce que nous appelons un CHRT, c'est un centre hospitalier de référence pour la transfusion sanguine, c'est une banque de sang hospitalière. Les normes sont les mêmes, les conditions sont les mêmes, mais quand il arrive, il faut qu'il se présente et qu'il suive le circuit pour présenter un don. Le don est prescrit par un médecin et nous allons dans notre banque de sang. Quand le sang est en stock, à ce moment-là, on va lui donner sans problème. Mais le problème des receveurs ou des membres des familles, ils arrivent en urgence. Il faut qu'on les fasse tout de suite, maintenant, séance tenante et toutes choses cessantes. À ce moment-là, ça devient compliqué pour les gens qui doivent prendre en charge la personne qui est en besoin de sang. Il faut qu'on suive cette procédure qui prend quelque temps, mais qui, pour lequel nous, en tout cas, étant notre mandat, nous n'avons pas de raison de refuser à qui que ce soit, n'est-ce pas, d'avoir le sang. La complication rentre par la pression familiale, et ça nous le savons, il faut qu'on fasse vite, et de manière à ce qu'on puisse donner. Mais il y a un nombre d'examens, il y a un nombre de procédures qu'on va faire pour que le bénéficiaire de l'unité de sang puisse bénéficier.
Mais en cas d'urgence, comment est-ce que vous allez gérer tout cela? Lorsqu'il y a urgence alors?
La transfusion est déjà une urgence. Et quand on arrive, il y a quelque chose, des choses qu'on ne peut pas dépasser. Si on dit par exemple qu'on doit faire les tests de compatibilité qui prend de 15 à 45 minutes ou bien de 15 à 25 minutes, on doit absolument le faire, qui que ce soit, pour qu'on puisse lui donner cette unité de sang. Sinon, on va donner du sang qui est incompatible et nous allons fatalement avoir des problèmes. Voyez. Si on dit qu'on doit, tester les 4 marqueurs, il faut qu'on le fasse. Donc, il y a des choses qui sont préalables au don ou bien à la livraison de l'unité de sang. Quelle que soit l'urgence, on doit donner. Sinon, de toute manière, arrivé au moment où on va administrer ce sang, on aura des problèmes. Si on dit qu'on doit faire la compatibilité au lit de malade, ouais, bon, ça c'est déjà au moment où on doit placer cette transfusion, il faut qu'on le fasse. Sinon, nous allons manquer des normes ou bien des étapes qui sont nécessaires pour que la transfusion puisse être sécure pour la personne qui la reçoit.
Bien, on va y revenir tout à l'heure. Le temps d'accueillir Dr. Richard Mukalenge qui nous appelle de Kinshasa. Docteur, bonjour.
Bonjour Kachama.
On vous écoute.
Bonjour à notre invité, à tout le monde. Alors, j'ai une question, contribution et préoccupation.
Oui.
Je venais de suivre tout à l'heure là, le pourcentage bas pratiquement des donneurs bénévoles
oui.
par rapport aux besoins. Alors voici ma question préoccupation. Pourquoi ne pas élever au rang du contenu de la nouvelle citoyenneté qu'on a difficile à définir, le don de sang, la conduite automobile et le secourisme, avec un document qu'on déposerait au Parlement pour que on puisse... montrer à la communauté que la nouvelle citoyenneté, c'est 3 éléments de base lorsqu'on atteint 18 ans, par exemple. Ok?
Oui.
Moi-même, j'ai fait le don de sang pendant 45 ans, parce que j'ai laissé à 52 ans. Je suis secouriste et j'ai travaillé dans un pays en guerre comme médecin des urgences. Hein.
Oui.
Merci.
Merci, docteur Richard. Monsieur David.
J'ai remercié le docteur Mukalenge pour sa contribution qui vient vraiment au bon moment. Et moi, je crois que ça, c'est une idée que nous pouvons capitaliser en prenant ça et en introduisant ça, n'est-ce pas, comme un thème
dans la nouvelle citoyenneté.
Parce que, effectivement, les dons de sang, c'est quand ce qui motive en fait le don de sang, c'est quoi? Ce sont les urgences, ce sont les catastrophes et tout ceci. Et la population se sent, n'est-ce pas, dans un besoin de pouvoir satisfaire ce besoin eu égard aux morts qui peuvent s'en suivre s'ils ne font rien. Et moi, je crois qu'un bon citoyen, je crois qu'un bon patriote qui voit, nous prenons Sangé, nous prenons les types K ici à Kinshasa. Nous étions au programme. Dans les 8 minutes qui suivaient, nous étions à l'hôpital général et les gens étaient à la queue-leu pour qu'ils puissent donner du sang, pour qu'on puisse sauver ceux qui sont, n'est-ce pas, les accidentés du type K. À Sangé, nous avons pris des unités à partir de Kinshasa qui sont allées jusqu'à donner, n'est-ce pas, du sang à ceux qui étaient à Sangé parce qu'ils s'étaient dépassés. Notre centre provincial ne pouvait pas subvenir à tous les besoins. Moi, je crois que si on introduit cette notion dans la nouvelle citoyenneté et qu'on en débatte sérieusement au Parlement, ça va venir contribuer à ce que les attentes du programme, parce que ça fait un beau bout de temps où nous sommes en train de donner des éléments pour que finalement nous puissions avoir une loi sur la transfusion sanguine qui nous permettrait en même temps, non pas seulement de mobiliser des moyens, mais aussi à mobiliser la communauté pour que, la philosophie, la pensée même hein, du don bénévole puisse être, n'est-ce pas, diffusée au niveau de la communication. Donc nous prenons cette contribution comme la bienvenue, donc la contribution de Dr. Mukalenge.
Alors, M. David, un donneur bénévole de sang, il doit donner le sang à quelle fréquence, combien de fois, peut-être la semaine ou le mois, je ne sais pas, ou par an. Et puis, est-ce qu'il y a des avantages qui sont liés à ce geste-là?
Merci. D'abord, par rapport à la périodicité, tous les 3 mois, un candidat donneur peut donner du sang. C'est-à-dire que qui peut donner du sang? C'est un peu répondre et comment est-ce qu'il le fait. Celui qui peut donner du sang, il a déjà 18 ans révolu, comme nous l'avions dit, et il est en bonne santé, il arrive, il subit quelques examens, on le prélève la première fois. En ayant les 3 mois, il reviendra au centre provincial, au centre national ou bien à un poste de transfusion pour se prélever une seconde fois. Donc à ce moment-là, il est de nouveau apte. Et comme ça, si vous voyez, comment dire, la périodicité, bon, chez l'homme, il peut donner 4 fois. Si je peux aussi dire 3 mois, 3 mois, 3 mois, en une année, il peut donner. Mais les dames, à cause de certaines périodes, n'est-ce pas, qu'elles passent,
des menstrues,
elles peuvent donner 3 fois l'an. Donc, c'est un peu les avantages. Écoutez, c'est une banque de sang, comme on dit. Les avantages, c'est que quand lui, il a besoin du sang, à tout moment, il fait présenter dans un centre de transfusion pour qu'on puisse lui donner du sang lui-même. Ou bien, comment dire, les membres de sa famille nucléaire de premier degré. Les abus que nous constatons souvent, et c'est ce qui fait problème, c'est que les gens s'arrangent pour que ça puisse être, des gens qui sont très proches, et plutôt trop éloignés, qui se passent pour être des membres de famille qui ont des problèmes. À ce moment-là, c'est une sorte de commercialisation.
Ils gagnent un peu d'argent derrière.
Ils gagnent et puis ils viennent. Mais en réalité, les avantages, c'est que quand quelqu'un arrive comme ça, il a droit à cette unité de sang. Mais il y a aussi des journées qui sont consacrées uniquement pour ces donneurs qui sont en fait des héros anonymes que personne ne connaît, pour avoir une gratification. Ces jours-là, on reconnaît mondialement et même au niveau national que voilà, il fait tel un acte qui n'a pas de prix. Et à ce moment-là, nous donnons des distinctions honorifiques, des diplômes pour ceux qui ont fait 10.
Ça s'est fait publiquement.
Ça s'est fait publiquement, il y a même des décorations. Et à ce moment-là, c'est le seul avantage quand quelqu'un il est reconnu. Nous prenons par exemple feu Cardinal Malula. C'était un donneur à qui avait suscité auprès de Bilenga Mwinda, n'est-ce pas,
cet avantage, cet
élan de don, et c'est quelqu'un à qui on avait donné
il a été honoré,
il a été honoré.
Diplôme d'honneur,
et ça nous pouvons le faire à tous les donneurs qui
arrivent, pour encourager les autres
à venir. Voilà ce qu'on peut avoir comme avantage.
Nous avons deux autres auditeurs en ligne. Albert Tupesi nous appelle de Kolwezi. Jean Kasongo de Lubumbashi. Albert Tupesi, bonjour. Albert, bonjour.
Bonjour, bonjour, M. Hacham.
On vous écoute.
Oui, je voulais un peu savoir quel est le prix, exact d'une poche de sang. Parce que chez nous, en Colombie, nous constatons que les gens donnent du sang bénévolement, mais vous arrivez au niveau d'un centre hospitalier, on va la pochette à 25 000, 30 000, et pourtant, le sang qu'ils ont eu, c'est. On les a donné ça gratuitement. Alors, quel est le prix exact d'une pochette de sang?
Merci Albert. Jean Kasongo de Lubumbashi, bonjour.
Bonjour et bonjour à tous.
On vous écoute.
Oui, moi j'ai deux petites questions. Premièrement, je voulais savoir tout simplement quels sont les critères pour qu'une personne
Oui, Jean Kasongo, Jean, s'il vous plaît, Jean. Jean, on vous écoute pas très très bien. Il y a un problème au niveau de la liaison téléphonique. La liaison s'est détériorée. Veuillez vous déplacer un tout petit peu. Peut-être que ça peut améliorer la qualité de la communication.
Je me suis déplacé un petit peu.
Désolé Jean, on ne peut pas continuer, la qualité n'est pas très bonne, on va vous retrouver plus tard. Le temps d'accorder la parole à Pierre Lokobo de Kisangani. Pierre, bonjour. Pierre, vous êtes à Kisangani, bonjour.
Allô, bonjour.
On vous écoute.
Bonjour.
Bonjour Pierre, on vous écoute.
Oui, j'aimerais demander à l'invité parce que c'était ce qui m'est arrivé. Moi aussi, je suis un donneur du sang.
Oui.
Je voudrais savoir, il faut faire un écart de combien de jours pour redonner encore le sang.
Merci, Monsieur David.
Merci beaucoup à notre ami. On a dit tout à l'heure qu'il fallait au moins des périodicités de 3 mois. Après 3 mois, il peut venir. Mais son volume de sang est déjà reconstitué dans les 6 heures. Mais il faut que le sang qu'il a dans son corps puisse arriver, les cellules qui sont là, les globules rouges, arrivent à maturité pour qu'ils puissent avoir toute leur capacité de capter l'oxygène, tout ceci. Et tout cela se fait en 3 mois. Il peut revenir, il peut aller au CPTS qui se trouve au laboratoire, disons, en face de l'hôpital général Kisangani, il peut donner son sang. Alors, je reviens à notre ami de
Albert de Colésium.
C'est une question récurrente. Cette question arrive toujours, en fait, quel est le coût d'une poche de sang? Nous pourrions répondre à cette question de deux manières. D'abord, il est difficile de fixer un coût pour le sang parce que ce n'est pas un produit commerçable. On ne fabrique pas du sang à l'usine. Et ce sont des produits biologiques qui, en réalité, ne devraient pas faire l'objet de ventes. Néanmoins, il y a un coût de cession d'unités de sang. Et le coût qui est fixé, c'est un coût qui représente tous les actes et tous les tests qui sont faits sur l'unité de sang et tout, comment dire, le matériel dans lequel on prélève les actes, les prestations de tous les personnes qui font. Et qui font des actes qui traitent cette unité de sang. Ce prix, normalement, ne peut pas être d'office fixé à partir de Kinshasa. Il est apprécié par ce que nous appelons les comités de pilotage ou bien les comités de santé dans chaque entité administrative sanitaire. Parce qu'il tient compte de beaucoup de facteurs. Le revenu des gens qui sont sur place là-bas.
Il nous parle de 25 000. C'est entre 25 000 à 30 000.
Exactement. Donc, il serait difficile qu'à nous, à partir de Kinshasa, nous puissions fixer ce coût. Mais... avec
25 000, est-ce que c'est pas trop?
Nous pensons qu'effectivement, peut-être que c'est là où il y a le mining, il y a Kolwezi et tout ça, c'est quand même extrêmement cher parce que au niveau du centre provincial, en tout cas, je crois que ça doit être moins de 10 dollars l'unité des sang. Mais comme nous l'avions dit, ça c'est une question qui relève de l'entité décentralisée, là où ils peuvent voir tous les conditions, les revenus des gens qui sont sur place pour fixer ce coût. Oui. Mais nous avons donné cette latitude au comité qui se trouve sur place de pouvoir fixer ce coût.
Pouvoir fixer bien.
Ce que nous faisons, c'est juste fixer le coût par rapport à un test, par rapport aux prestations du personnel soignant qui traite ces unités de sang.
Rachel Ndjounjou nous appelle depuis Siro, en province orientale, et Kadi Kadima et se trouve à Kinshasa. Rachel, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, je vais vous féliciter. Si par exemple quelqu'un veut faire un don du sang, est-ce que la personne doit y aller directement à l'hôpital pour dire que s'il venait faire un don du sang ou il y a d'autres procédures à suivre en fait d'y aller?
Merci Rachel. Kadi Kadima de Kinshasa, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute. Oui, Kadi, la liaison est très très mauvaise. Veuillez vous déplacer un tout petit peu. Peut-être que
oui,
ça
je
peut.
Ça... Oui. Je disais ceci.
Oui.
Nous, les sangs, nous les demandons gratuitement. Et les gens qui reçoivent les sangs vont prévendre ça à ne plus cher. La deuxième préoccupation est celle-ci.
Désolé Kadi, là ça ne va pas. On vous écoute plus très très bien, Monsieur David. Vous avez quand même saisi sa première question.
Oui. Pour Rachel, donc, elle peut se présenter dans un poste de transfusion, dans des centres de santé où le personnel est déjà soigné et que je dis est formé pour qu'il puisse être à même de pouvoir donner. Là, il va subir ce qu'on appelle un questionnement. Donc, on va faire un entretien avec elle pour voir si elle est éligible au don. Et à ce moment-là, on pourra la prélever. Donc, il n'y a pas de problème qu'elle se présente au centre.
Elle aura une carte. Hein, on va
la carte qu'elle aura pour la première fois, c'est une carte de rendez-vous pour lui dire qu'elle revienne après 3 mois. Et quand elle aura fait 3 fois, on lui donne maintenant une carte d'honneur parce qu'on sait qu'à ce moment-là, elle est rentrée dans ce processus de fidélisation. Mais la carte qu'on lui donne pour la première fois, c'est une carte de rendez-vous pour lui dire, pour lui rappeler de venir la prochaine fois. Il n'y a pas d'obstacle. Mmh. Elle peut se présenter et il y a en tout cas des structures qui sont bien là pour l'accueillir. Tandis qu'un autre, c'est toujours le problème du coup.
Ouais, vous avez déjà répondu à ça.
J'ai déjà répondu à cette question.
Ouais. Alors souvent, je vois cette mention, une inscription donnée du sang, c'est sauver une vie. Qu'est-ce que cela veut dire?
Effectivement, vous ne pouvez pas vous imaginer, et nous voyons toujours la scène chez nous. Quand une personne est anémique, une femme par exemple qui a perdu du sang, et qu'on commence à lui transfuser du sang, vous allez voir de manière... Il faut
c'est visible. Hein?
C'est visible. Ouais. Vous voyez que cette personne-là était en train de mourir. Mais que la vie, donc, elle commence à reprendre de couleur, elle commence à respirer normalement, et puis la vivacité arrive. Et c'est vraiment quelque chose qui est visible, qu'on sent effectivement la transfusion d'une unité de sang, n'est-ce pas? Redonne toute la vie, donc la personne est redynamisée et elle reprend vie. Mais aussi, on a vu des gens mourir. Moi, je peux vous donner mon témoignage. Moi, j'ai vu ma nièce. Pendant les temps de guerre, elle avait un groupe Rh négatif, un résus négatif. Il n'y avait pas son groupe, elle est décédée comme ça. Partant, on voit vraiment par manque de ce groupe-là. Et là, commencé à dire à sa maman, maman, je suis en train d'aller, je suis allé, petit à petit, on a vu s'éteindre cette personne. Donc, le manque de sang peut conduire fatalement à la mort. Tandis que quand on donne, c'est vraiment redonner de la vie. Oui, c'est quand on donne une personne une transfusion, c'est la vie. Nous, on voit même cette personne ouvrir les yeux et de nouveau commencer à parler. Donc, oui. Le don de sang, c'est
donc, vraiment... Donc, on retient que faire un don bénévole de sang, c'est sauver une vie.
C'est sauver une vie. Ça, c'est quelque chose qui est... Ce n'est pas un slogan, oui, mais c'est une réalité.
C'est une réalité.
Le don de sang, c'est un don de vie.
Bien, merci M. David Ndakala. Nous rappelons que vous êtes le directeur général adjoint du Centre national des transfusions sanguines. À la prochaine.
Merci beaucoup, M. Kachama. Merci.
Au capé.